2012,
les émissions de France Inter s'installent dans 12 villes de France.
Jeudi,
en direct de Strasbourg,
à la rencontre des auditeurs et citoyens.
Retrouvez la matinale de Patrick Cohen,
Pascal Clark.
Rendez-vous à partir de 9h10. Downtown de Philippe Collin et Xavier Mauduit.
Bonsoir, on vous écoute.
Et le téléphone sonne d'Alain Bédoué.
Le Tour de France de France Inter.
12 mois,
12 villes,
12 éclairages.
Venez nous retrouver jeudi en direct de la grande salle de l'Aubette, 31 Place Kléber à Strasbourg.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter.
La différence. Et sur France Inter, c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet et ses amis sur le répondeur.
28 juillet 1885, Jules Ferry. Les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. Hier, au 7-9 de France Inter, Luc Ferry. Toutes les civilisations ne se valent évidemment pas. Il ne nous a pas dit si on avait toujours des droits sur eux. Merci.
Bonjour, c'est Marie-Jo. Daniel Mermet, bravo, vraiment bravo pour ces deux émissions de jeudi et de vendredi. Ça met du baume au cœur. Il fallait penser à faire ça pour concrétiser un peu tout ce qui pourrait effectivement être fait et qui aille vraiment dans l'intérêt des électeurs et des citoyens. Bravo et merci.
Daniel, oh là là, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau de rêver. Parce que oui, Ferraille a vraiment raison. Il est temps que le malheur succombe. Mais j'ai envie de pleurer aussi si ce rêve ne devient pas réalité. Et hélas, ça nous pend au nez, malgré tout rêveur que nous sommes à nous démener. Enfin bon, pour que ça passe, ces idées-là. Allez, continuons et croisons les doigts. Merci Daniel pour cette folle et juste idée. T'es vraiment incroyable comme mec et comme journaliste. Si tu n'existais pas, faudrait t'inventer. Enfin, t'existes. Bon, allez, continue. Rêvons et agissons. C'était Annie d'Arcueil.
Merci pour toutes ces émissions qui nous redonnent du baume au cœur. Tu te rends compte, Daniel, du vent d'espoir que nous souffle l'altergouvernement. C'est le seul gouvernement qui nous propose une vraie alternative, un vrai changement pour la majorité d'entre nous. Le seul gouvernement qui nous considère comme de vrais responsables pouvant participer à la vie de la société. Le seul qui nous propose une vraie démocratie participative. Alors là, non, il ne faut pas que cela reste au stade des rêves. Non, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut qu'on mène à bien cette utopie. On ne peut pas rester planté là. Et je suis sûre que la majorité des Français aspire à la vraie justice, à la vraie égalité, à la vraie fraternité. On attendait juste qu'un groupe de nouvelles lumières nous montre qu'un autre monde est possible. S'il vous plaît, ne nous décevez pas. Safia du Lot.
J'ai envie de vous dire quand même qu'il y a beaucoup d'inconscience dans vos émissions parce que je crois que vous ne vous rendez pas bien compte, lisez Le Monde du 7 février. Des centaines de riches que vous abhorrez quittent la France. Bon, il y en aura encore plus comme ça. Alors, de l'éducation à l'écologie, c'est vrai qu'on est nul en France, absolument nul. Mais en économie, vous n'êtes pas meilleur que les autres, loin de là. Alors, si vous voulez faire partir le peu qui reste, eh ben, on va se retrouver comme la Grèce. Alors, arrêtez un petit peu, soyez raisonnable, c'est dur pour tout le monde. Voilà, bonne chance.
Daniel, bonjour, c'est Hervé, là, d'Altier, une petite commune de Vauzère. Je ne sais même pas si c'est sur la carte. Quand j'ai écouté ton émission, le vendredi, ça, et jeudi, vendredi, j'ai arrêté ma charcuterie, tellement je me suis régalé. Hein. Et alors, après, quand t'as envoyé la France, là, de Jean Ferrat, mon pauvre, mes poils se sont hérissés sur les bras. Hein. Pourtant, comme a dit Mélenchon, je ne suis pas un perdreau de l'année. Hein. Et que ça fait rien, continue comme ça. Et quand tu seras ministre de la radio-télévision, peut-être qu'on entendra un peu moins de conneries, on verra un peu moins de bêtises aussi. Allez, à bientôt, ciao.
Bonjour, c'est Gérard d'Embrun. Nous sommes le 13 février. Il est midi. Et dans 2000 heures, ah, 2000 heures, nous serons le 6 mai à 20h. And the winner is...
And the winner is l'altergouvernement. Eh oui. On continue aujourd'hui avec la grande nouvelle. Le 6 mai 2012, surprise, le miracle l'a emporté. Et c'est l'altergouvernement qui s'installe au pouvoir, mais pas seulement qui s'installe au pouvoir, qui prend le pouvoir, mais qui explique ce qu'il va faire. Et ça, ça vous plaît, cette idée de ces ministres, ministres citoyens, qui défilent depuis 3 jours au micro de là-bas, si j'y suis, pour dire ce qu'ils vont faire, ce qu'ils entendent faire, dans tous les domaines des affaires étrangères, de la défense, de l'éducation, de l'économie, dans tous les domaines, de le ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère du Logement, et aujourd'hui, deux grands ministères, celui de la Culture, vous savez que notre nouveau ministre de la Culture, c'est Franck Lepage, et le ministre... Alors, Le couple ministériel, il s'agit de... Oui, ils sont deux à ce ministère. Le ministère des changements de l'État. Ah, et il s'appelle Michel et Monique Pinson-Charlot, que vous connaissez. Ils étaient sociologues avant d'être nommés à ce poste éminent. Eh bien, aujourd'hui, ils sont ministres de ce nouveau gouvernement, alter-gouvernement, le premier alter-gouvernement de l'histoire. Et c'est pas pour de rire, tout ça, en tous les cas, c'est une utopie. Qui sait si elle le restera fort longtemps, c'est une hypothèse, mais c'est très sérieux, parce que dans ce petit livre publié dans une toute petite maison d'édition qui s'appelle Muscadier, eh bien, tous ces alter-ministres disent ce qu'ils vont faire. Et c'est très précis, ils ont bien travaillé, ils travaillent depuis longtemps sur ces questions d'une critique du néolibéralisme, d'une critique des politiques qui nous gouvernent depuis une bonne trentaine d'années, et dont hier soir et cette nuit, la Grèce a été une épouvantable illustration, un aboutissement, et en même temps un épouvantail glaçant pour nous tous. On va évoquer ce qui s'est passé en Grèce avec Yorgos Mitralias, qu'on avait rencontré lors de nos reportages à Athènes en décembre et que nous avons joint avec Antoine. Mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Voilà, je voulais vous raconter une mésaventure qui m'est arrivée récemment. Jeudi, j'ai pris l'avion pour la Palestine via l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, puisqu'il n'y a pas d'aéroport en Cisjordanie. Je partais travailler bénévolement pour une association à Hébron, mais voilà, comme la situation est compliquée à Hébron, on m'a conseillé de dire que je venais faire du tourisme en Israël pour éviter des interrogatoires longs et fatigants à l'aéroport. Sauf que voilà, Israël a tellement peur des bénévoles qui viennent aider les Palestiniens que faire du tourisme tout seul, ça leur paraît louche. Alors j'ai immédiatement été suspectée de bénévolat, c'est vous dire mon crime. J'ai eu droit à 4 interrogatoires et j'ai craqué. J'ai avoué grand Dieu que j'étais en fait une bénévole. Alors comme de nombreux cas avant moi, mon visa a été refusé et j'ai été envoyée en centre de rétention avant de prendre un vol pour la France. Voilà, voilà comment Israël prétend vouloir faire la paix avec les Palestiniens. C'était Alice de Blois, merci, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG. Je vous appelle pour vous signaler la création d'un repère là-bas si j'y suis, à Antibes-Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, dont la première réunion se tiendra ce lundi 13 février à 18h30, au bar à soupe rue des Palmiers, dans la vieille ville. Nous vous invitons à venir discuter, débattre autour de la thématique « La démocratie et après ». Nous vous attendons nombreux. Et à très bientôt.
Bonjour. Je viens d'aller sur le site de là-bas, si j'y suis, pour écouter les émissions là, sur l'alter-gouvernement. Et je suis tombé sur la petite vidéo concernant de Vincent Braun contre Klaus Mazur. Et vraiment, je trouve que c'est jouissif, quoi. Donc voilà, j'avais une petite proposition à faire. Ce serait de proposer à Vincent Braun de le naturaliser français, l'appeler éventuellement Vincent Brun, ça je choquerait personne comme ça. Et puis de le mettre porte-parole de l'alter-gouvernement, parce que vraiment, il serait valable à cette place. Voilà. Pascal de Jonsu en Creuse.
Oui, bonjour à tous. Je voulais juste adresser un message de soutien au peuple grec et aussi exprimer ma colère contre les médias français et notamment les journaux de France Inter qui nous ont décrit les manifestants soit comme des casseurs, soit comme des inconscients qui amènent femmes et enfants dans les manifestations, en tout cas comme des gens qui n'ont rien compris au fait qu'on faisait tout ça pour les sauver. C'est tout simplement pathétique. C'était Baptiste, de Bordeaux.
Bon, j'étais pas bien là ce week-end, je dormais mal et tout, un peu tout chiffon. Non, j'étais inquiet, quoi, parce que vraiment la Grèce, tout ça, là, là. Et puis bon, ce matin, là, j'étais rassuré, parce que visiblement, les marchés financiers sont rassurés aussi. Alors, moi, ça me rassure qu'ils soient rassurés, parce que même avec une bonne insurrection, là, une bonne baston, eh ben, ils sont rassurés, ils vont pouvoir piller la Grèce un peu plus, continuer, investir, piller, quoi, piller. Voilà, alors, vivement que ça arrive chez nous, que je sois rassuré, parce que là, je suis chiffon, hein, merci.
Effectivement, les marchés ont été rassurés. Vous savez que c'est notre grande angoisse à tous, c'est de rassurer les marchés. Et effectivement, la Grèce, les images qui nous parviennent de Grèce, les images pathétiques qui nous parviennent, violentes qui nous parviennent de Grèce, sont utilisées comme un épouvantail. On nous dit, écoutez, faites attention, hein, serrez-vous la ceinture, acceptez la rigueur, sinon voilà ce qui va vous arriver. Voilà ce à quoi sert la Grèce actuellement, et voilà l'épouvantail qui est brandi. On a essayé, on n'est pas les seuls, bien sûr, à travers nos reportages de décembre, mais bien d'autres avec nous et avant nous et après nous, et continuent à essayer de faire comprendre le mécanisme de ce qui se passe en Grèce. C'est pourtant pas très très compliqué. Il n'y a pas que les effets que nous voyons aujourd'hui, mais il y a les causes de cet endettement terrible du peuple grec, pas seulement du gouvernement grec, de l'État grec, et qui n'est pas seulement dû à sa mauvaise gestion et au côté corrompu et frauduleux de la gestion. Il y a d'autres raisons à cela, et c'est les mêmes raisons qui frappent aujourd'hui et l'Espagne, et le Portugal, et l'Irlande, en partie l'Italie, et pourquoi pas un de ces jours la France. Donc c'est en cela que la Grèce nous intéresse, et c'est pour ça que nous rejoignons par téléphone Yorgos Mitralias, notre ami que nous avions rencontré lors de nos reportages en décembre avec Antoine Ciao à Athènes, pour lui demander quelle était la situation selon lui.
C'est parti là, ça y est, on est complètement encerclé là par les bombes lacrymogènes.
Chacun va comprendre de quoi on parle quand les mêmes politiques vont arriver dans son pays. C'est une guerre sociale.
Yorgos Mitralias, bonjour.
Bonjour.
On s'est vu au mois de décembre à Athènes. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Est-ce que tu étais dans les rues?
Oui, comme tout le monde. Bon, tout d'abord, il y a eu une foule énorme qui barbague, un flot ininterrompu, qui commençait à converger vers la place Syndagma, c'est-à-dire autour du gouvernement, où c'était les rendez-vous annoncés d'avance, pour assiéger le Parlement en vue du vote des députés vers minuit. Donc cette foule ininterrompue convergeait vers cette place Syndagma à 5 heures. Mais vers 5h30, il a eu la première charge des forces spéciales, la police, contre cette foule. Bah, j'ai vu que chez vous, on parle des 100 000 manifestants. Bah, évidemment, c'est impossible de calculer dans ce cas-là. Il y a des politiciens grecs qui ont parlé de demi-million. Mais ça, c'était tout au début du rassemblement. J'imagine que d'autres Athéniens, en voyant ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, pas seulement Syndagma, mais toutes les rues avoisinantes, les alentours étaient transformés en un champ de bataille terrible où on pouvait pas respirer, ils sont restés chez eux, ou ont rebroussé chemin. En plus, la police, ce qu'elle a fait tout de suite, c'était de fermer les stations de métro. Au-delà de tout ça, ce qui s'est passé, c'est une nouvelle fois un signe de désapprobation, mais pas dire plus, de la rage de l'immense, immense majorité de la population. Tous les sondages depuis des semaines et des semaines donnent que plus de 90% de la population est contre ce gouvernement d'union nationale, comme on dit. Donc, c'était la confirmation de ce qu'on connaissait déjà. Par contre, ce qu'on connaissait pas, c'était les dégâts, ce qu'on provoquait au paysage politique traditionnel du pays, les événements d'hier. Bon, il y a eu 43 députés de deux grands partis qui s'alternent au pouvoir depuis toujours en Grèce, qui ont été exclus de leur parti, vu qu'ils n'ont pas suivi la ligne de voter pour. Donc, le résultat, à ce niveau, c'est que le deuxième parti de l'actuel Parlement, c'est le parti des indépendants, c'est-à-dire des exclus, qui comprend déjà 63 députés. Bon, ça, c'est vous donner un tout petit aperçu, un avant-goût de ces chambardements total, social, politique, économique, provoqués au pays. En terminant, moi, je pourrais rappeler la journée d'hier comme le jour 1, premier, d'une nouvelle période, de tous les orages qui nous a fait penser directement à l'entre-deux-guerres européen. Voilà.
C'est-à-dire
ces mesures pas draconiennes, barbares, inhumaines et folles d'austérité, de destruction de la société imposée à la Grèce par la Troïque, c'est-à-dire Sarkozy, votre Sarkozy, Merkel, Bruxelles, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, etc., me font penser énormément au traité de Versailles, par exemple. C'est la même destruction, la même humiliation aussi, à l'époque de l'Allemagne, actuellement à la Grèce, qui est en train de produire les mêmes effets exactement. Et la situation qu'on commence à vivre en Grèce me fait penser, jour après jour, à celle de la République de Weimar en Allemagne. Un exemple, je vais vous donner. Il y a deux ans, il y a eu des élections en Grèce. Il y a la social-démocratie grecque, le PASOK, qui a triomphé avec un score immense, 45%. Et domine encore, vu qu'on n'a pas eu d'autres élections, le Parlement grec, malgré la saignée d'hier. Alors, c'est parti de 45% il y a deux ans, et aux environs de 8% actuellement, selon tous les sondages, et probablement moins depuis hier. Alors, tandis que quelque chose, un groupuscule totalement inconnu, des néo-nazis, des hommes de caverne, ultra-violents, à 3%, 3% et demi actuellement. Bon, voilà un exemple de ce qui illustre ce climat de changement total, d'un chabardement, d'un séisme qui s'est produit au fondement de la société grecque. On peut s'attendre à tout. Et je termine en avertissant les Français, les auditeurs français, qu'il ne s'agit pas, il ne s'agit plus, et il s'agira de moins en moins désormais, d'un cas spécifiquement grec. Ce qu'était l'Espagne pour l'Europe en 1936 et actuellement la Grèce pour l'Europe de 2012. Évidemment dans un cas différent, dans des conditions différentes. Mais c'est un test, la Grèce. Ce qui est arrivé il y a deux ans en Grèce est arrivé à tous les autres il y a un an. Ce qui est arrivé il y a un an en Grèce est en train d'arriver dans pas mal de pays avec des intensités différentes en Europe. Donc réagissez avant qu'il soit très tard. Ne laissez pas les Grecs seuls.
Ok, merci, Yorgos. Merci à toi.
Allez, à bientôt.
Salut.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur
Philippe Lémary,
ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants.
Personnellement, je suis belge. Vous avez été plus efficace que les Belges pour faire un gouvernement, mais à part ça...
Madame
Suzanne Georges,
ministre des Affaires étrangères et européennes.
Si ça peut changer quelque chose, c'est pas plus mal. Hein.
Madame
Geneviève Azam,
ministre de l'Écologie.
C'est du bluff pour moi.
Madame
Clarisse Taron,
garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés.
Les Brouf.
Monsieur
Laurent Mucchielli,
ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration.
Au final, c'est toujours la même chose qui se répète, on nous prend pour des cons et il n'y a rien qui change, quoi.
Monsieur
Jean-Marie Haribet,
ministre du Travail, de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Trop de magouilles.
Monsieur
Franck Lepage,
ministre de la Culture.
Ça ne m'intéresse pas, la politique en France.
Madame et Monsieur Monique et Michel Pinson-Charlot,
ministre de la Réforme de l'État. Le président de la République réunira le Conseil des ministres avec l'ensemble des membres du gouvernement à 10h. Je vous remercie.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, avec Guy Van Cotil, 6 mai 2012, le printemps français, le libéralisme est foutu.
On va reprendre notre souffle en haut.
Ça, j'adore voir les petits blousons et tout ça. Regardez toutes ces promesses qu'il y a derrière.
Ben, aujourd'hui, il n'y en a pas trop par terre.
C'est l'avenue des ministres qui fait ça.
Édition spéciale, élection 2012.
Elle voit des petits blousons et elle voit des promesses. C'est Monique Pinson-Charlot. Et donc, Michel Pinson-Charlot aussi, le couple de sociologues que vous connaissez bien, qui sont nos amis et dont le dernier livre, Le Président des Riches, a beaucoup de succès, ce qui nous réjouit, sauf qu'ils ne sont plus sociologues du tout. Ils sont ministres désormais depuis le 6 mai 2012. Ils sont, ces deux citoyens, ministres de la réforme de l'État. C'était bien nécessaire à leurs yeux et en toute cohésion avec ce qu'ils écrivent et ce qu'ils observent aussi, parce qu'ils sont chercheurs avant tout, depuis tant d'années. Alors Guy Van Cotil a eu l'idée de les amener dans une école primaire de Paris, l'école Le Pic, l'école primaire de la rue Le Pic, dans le 18e arrondissement de Paris. On a eu la charmante autorisation de l'école, de l'instituteur lui-même, du maître d'école, pour recevoir ces deux éminents personnages, ce couple ministériel qui va expliquer à nos jeunes têtes blondes et à celles qui le sont moins, comment ça fonctionne, la société, la hiérarchie sociale, un peu de sociologie, un peu d'économie, un peu de sens politique. Et on va voir que les enfants, les jeunes élèves sont bien intéressés par ces questions, au moins autant que vous depuis 3 jours, depuis 3 numéros de là-bas si j'y suis, qui êtes accrochés et passionnés par cette idée toute simple d'une projection, d'une fiction, le 6 mai 2012. Imaginons que ce miracle, le mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne, l'ait emporté et qu'on ait nommé, on ne sait pas très bien comment, c'est pas précisé dans le bouquin, en tous les cas, voilà, il y a ces 18 ministres citoyens qui, dans ce livre, expliquent quelle va être leur politique, ce qu'ils vont essayer de faire, leur vision de ce qui pourrait être une vie politique et un avenir politique. Pas si utopique que ça, on l'a vu avec des intervenants concernant Philippe Lémary, par exemple, sur la défense, ou bien Laurent Mucchielli sur ce que pourrait être une police dans un État comme celui-là, avec un gouvernement comme celui-là. Il n'y a rien là de si irréaliste et si utopique que ça. Ce serait quand même curieux d'appeler désormais utopie ce qui serait simplement une véritable alternative. On ne parle pas d'alternance, on parle d'une véritable alternative. Est-ce qu'il y a alternative dans ce fait d'aller rencontrer tout simplement, quand on est des chercheurs émérites, les élèves d'une école de Paris? C'est ce qu'on va voir. En tous les cas, nous voici à l'école.
L'instruction civique, matière obligatoire, c'est écrit dans les textes officiels. Elle doit permettre aux futurs citoyens de connaître les institutions de leur pays. Sondage en main, un constat s'impose. Les jeunes électeurs de 18 ans, tout comme leurs parents, ont une connaissance plutôt médiocre des institutions politiques. Officiellement, l'école doit former des citoyens. C'est vrai, les notes scolaires importent peu. Mais eux, auront-ils les moyens de noter les hommes politiques?
Alors, monsieur et madame les ministres, Monique et Michel Pinson-Charlot, je vous retrouve à l'occasion de ce premier déplacement dans cette école de la rue Le Pic, cette école primaire où vous allez voir ces classes de CM2 pour leur annoncer les grandes orientations du nouveau gouvernement. Vous voilà donc ministre de la réforme de l'État. Qu'est-ce que c'est que cette attribution et pourquoi vous avoir choisi ce portefeuille-là ?
Justement, c'est une victoire qui est claire. Donc, nous avons choisi ce portefeuille pour éclairer les citoyens et pour aider les enfants des citoyens à devenir eux-mêmes des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a une trop grande méconnaissance de la vie politique, de la vie sociale et économique de la part de beaucoup d'entre nous. Et il est important que dès l'enfance, les éléments de base de fonctionnement de notre société soient compris par les enfants et qu'ils s'insèrent dans ces instances qui forment l'État et la société.
Madame la ministre.
Il faut que nos savoirs en sociologie, nos savoirs en économie et le peu de savoir que nous connaissons sur le droit, il faut arriver à le vulgariser, à le rendre accessible. Et on s'est dit avec Michel, pourquoi pas commencer dès le primaire.
D'ailleurs, c'est qui le ministre entre vous deux ?
Ah, c'est nous deux.
C'est un ministère bicéphale.
Oui, enfin bicéphale, une fois et demi céphale. Mais je ne dirais pas dans quel sens. Et nous continuons simplement ce que nous avons toujours fait dans notre vie professionnelle, c'est-à-dire effectivement de travailler en équipe. C'est une manière d'apprendre à ne pas être un rival pour l'autre, à ne pas être concurrent, mais faire ensemble, construire ensemble, sans la rivalité qui finalement, dans nos sociétés de libre concurrence, pour gagner une place, un échelon de plus que l'autre, etc. Nous étions contents quand il y en avait un qui grimpait un petit échelon. On était ensemble.
C'était toujours toi le premier, d'ailleurs. C'était pour le bénéfice de l'ancienneté.
C'est ça, ouais. Mais alors, par contre, Monique, à la télévision, on est toujours invité et pas moi. Et tout ça, c'est à cause de la parité. Finalement, ça équilibre.
Et on y va.
Alors, on va dans la classe de CM2.
Classe 2, Monsieur Collet.
Ah, on rentre, toute la classe se lève. Une classe, bonjour, bonjour les enfants. Monique.
Classe de CM2.
Parfait. Asseyez-vous les enfants.
Vous attendez.
Merci. Vous allez pouvoir poser des questions à monsieur et madame Monique et Michel Pinson-Charlot, qui sont ministres. Ils voudraient changer les cours qu'on donne à l'école, ou en tout cas vous faire des nouveaux cours à vous pour vous apprendre la société, la politique et le droit. Alors j'imagine que vous, un cours de plus tout de suite, ça vous fait très plaisir.
Oui, oui.
Alors est-ce qu'on risque pas de gaver ces pauvres enfants comme des oies à leur apprendre les institutions politiques et législatives françaises ? Michel et Monique Pinson-Charlot, messieurs et madame les ministres.
Non, parce que ce qu'on va essayer, dans le programme qu'on a mis au point, c'est de vous faire vivre l'importance qu'il y a à comprendre la société dans laquelle vous vivez. Alors là, il faut demander à monsieur le professeur si on peut utiliser un tout petit bout du... Tout effacé. Alors, ben Michel, tu fais pas le dessin ?
Vas-y.
Ah ben voilà, il y a déjà entre les deux ministres.
Alors, on vous a pas dit que les deux ministres, lui, c'était mon mari et moi, je suis sa femme. Alors, si de temps en temps on se dispute, vous vous affolez pas. Alors, donc là, Michel va vous faire une représentation de la société au fur et à mesure que je parle. Alors, regardez, une pyramide qui représente schématiquement la société française. Alors, donc ici, en bas, c'est là qu'il y a le plus de gens avec ici les ouvriers, c'est ceux qui fabriquent les... Voilà, et qui gagnent autour de entre 1000 et 1500 euros. Et puis, au-dessus d'eux, il y a employés. Hein. Et les employés plus les ouvriers, ça représente plus de la moitié de la population des travailleurs en France. D'accord ? Est-ce que tout le monde suit bien ?
Oui.
Ah, donc c'est bon, mais je vais pouvoir retourner à l'école primaire, tu vois. Ici, vous avez toute une masse de gens qui sont des cadres, des médecins. Lui, il est journaliste. Nous, on est chercheurs, on est là-dedans. Monsieur l'instituteur aussi, vous êtes là. Hein ? Et puis, si. Tout en haut de la société, là, c'est le 1% des gens les plus riches, qui sont tout à fait en haut, les banquiers, les financiers. Il y a très peu de monde, mais là, ils sont très, 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 très riches. Et ce qu'on veut montrer avec la pyramide, c'est que ceux qui sont en bas qui travaillent dur et qui gagnent peu, c'est eux les plus nombreux.
On peut dire aussi que si on retire ceux qui sont en bas, la pyramide s'écroule. Parce que s'il y a quelque chose qui fait tenir la pyramide, c'est bien en bas les ouvriers, et puis au-dessus les employés, puis au-dessus les cadres. Si tous ces gens-là s'en vont, ceux qui se trouvent là, pof, ils s'étalent par terre.
Alors peut-être qu'on va passer à des questions. Alors, vous avez sûrement des tas de choses à dire, ça c'est pas possible. Dès qu'on parle des gens qui ont beaucoup de sous et d'autres qui n'en ont pas beaucoup, on peut pas... Ah, j'étais sûre.
Pourquoi il y a des gens qui gagnent plus d'argent que d'autres? Mais pourquoi les banquiers, tout ça, ils ont plus d'argent? Parce que, enfin, ils sont juste patrons, il n'y a rien de plus.
Bah, parce que c'est les directeurs, ils gagnent tout l'argent qu'il y a dans les caisses.
Parce que eux, ils jouent avec l'argent. Je crois que c'est parce que c'est grâce à eux qu'ils font l'argent, quoi.
Ils font la richesse.
Oui. Mais il y a aussi des gens riches, mais qui ont un travail difficile, enfin, qui...
Chabal, par exemple.
Chabal, lui, il est dans les sportifs.
Ouais. Il travaille, lui.
Oui, tout à fait. Bon, Michel, tu veux dire quelque chose?
Il y a eu une réponse qui a été donnée à la question « Comment est-ce qu'ils sont devenus riches ?» Une très bonne réponse, c'est qu'ils jouent avec cet argent. Pour l'essentiel, c'est que toute richesse est créée par le travail. On peut acheter des disques, on peut acheter des bananes, mais on achète des disques et des bananes avec de l'argent. Donc l'argent, c'est un moyen. Mais maintenant, il y a d'autres formes d'enrichissement que l'enrichissement par le travail. Vous avez entendu parler de la bourse, vous savez que ça monte et que ça descend. Alors vous avez des gens qui, en jouant comme ça, sur des valeurs qui montent et qui descendent, des actions des entreprises, mais de ce qu'on appelle la spéculation, c'est-à-dire le fait de prêter de l'argent, et quand vous prêtez de l'argent, on vous en rend beaucoup plus. Et de cette manière-là, sans travailler, on peut avoir beaucoup de richesses.
Voilà. Alors nous, pour répondre à votre question, comme ministre de la réforme de l'État et de la cohésion sociale, pour nous, l'économie, la finance, doit être au service des hommes. Et les hommes ne doivent plus être au service de cet enrichissement sans cause qui, aujourd'hui, pose beaucoup de problèmes en France.
Pourquoi les riches, ils ne donnent pas de l'argent à ceux qui en ont besoin?
Mais les personnes riches, comptent-ils comme travail?
Les médecins, ils sont placés où? Les réalisateurs, ils sont placés où? Et vous pensez que vous allez mettre à quand ce projet à œuvre? Ceux qui travaillent, les présidents, et ceux qui travaillent dans les députés, dans le gouvernement, ils sont placés plutôt dans les cadres ou dans le 1% tout en haut.
Votre question est intéressante. Et justement, nous, en tant que ministres, on va faire une énorme réforme. Parce que aujourd'hui, vous avez bien noté que employés et ouvriers, c'était plus de la moitié de la population des gens qui travaillent. Or, combien y a-t-il aujourd'hui à l'Assemblée nationale de députés, ouvriers ou employés?
Vous avez une idée, ça? Quelqu'un a une idée? Vas-y, dis.
100.
30.
10.
10.
20.
Alors, vous avez tous faux. Le résultat, c'est zéro. C'est-à-dire qu'il y a zéro député à l'Assemblée nationale qui ait été, avant d'être député, ouvrier ou employé. Donc, nous allons prendre des mesures pour faire en sorte que les lois que votent les députés soient des lois qui soient votées par des députés qui représentent l'ensemble de la société française. Parce que sinon, si vous laissez les députés uniquement des cadres, des patrons et des banquiers, que vont-ils faire à l'Assemblée nationale? Eh bien, ils font des lois pour eux, qui vont défendre leurs intérêts et pas les nôtres. Et c'est pour ça que, en tant que ministre de l'État et de la cohésion sociale, nous voulons faire des cours sur la politique, sur le politique, dès le primaire. Parce que très souvent, on entend des adultes qui disent « Oh, moi, je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas. » Eh bien, c'est un tort. La politique, c'est notre bien commun à tous. Nous sommes tous dans cette société française. Nous avons tous le droit de donner notre avis et d'élire des gens qui vont voter des bonnes lois pour qu'il y ait plus de justice dans notre pays. Par exemple, on vous apprendrait que le vote, c'est pas quelque chose de naturel. Depuis quand, d'après vous, les femmes ont-elles le droit de voter en France? Alors, allez-y.
Je vous écoute.
Depuis la Révolution française?
Non.
Vas-y.
1863?
Non. 1863, non.
Alors, c'est moi qui vais vous donner la réponse. C'est depuis que je suis née. Alors, vous vous dites...
Ça fait longtemps.
Les femmes ont le droit de vote en France depuis 1945. C'est-à-dire, c'est extrêmement récent. C'est vous dire que quand on a l'histoire dans la tête, quand on a de la sociologie dans la tête, quand on a de l'économie dans la tête, quand on a le droit dans la tête, on comprend que le vote, c'est pas comme le soleil qui brille, ça n'est pas une donnée naturelle. Le vote, il a été acquis par les femmes qui se sont battues pour devenir l'égales des hommes.
Alors oui, quelques bras qui se lèvent pour des questions.
Mais pourquoi les femmes, elles n'avaient pas le droit de voter avant 1945?
Parce qu'elles avaient beaucoup de devoirs, mais pas de droits. Et que si vous voulez les droits, pour que chacun soit respecté, eh bien il faut se battre pour les obtenir, c'est comme ça.
Et pourquoi on a des devoirs et pas les adultes?
Bah, il y en a qui en ont.
Il y en a qui en ont.
Pourquoi nous, on n'a pas le droit de voter? Mais peut-être que dans le futur, comme les femmes les ont fait, peut-être que dans le futur, les enfants ils auront peut-être le droit de voter.
Oui, je crois que si vous aviez des cours de droit, de sociologie, etc., vous en viendriez peut-être à faire comme les femmes autrefois, c'est-à-dire à protester, à dire il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas le droit de nous exprimer et de dire ce qu'on souhaite. En tout cas, on pourrait essayer de vous faire voter pour vous apprendre ce que c'est que de s'exprimer et d'avoir le droit à la parole, ce qui est quelque chose de très important. Et puis, si vous voulez, vous pourrez voter pour moi aussi. Si, ce serait une bonne idée. Vous pourrez dire « Ah, je les connais, je les ai vus dans ma classe, ils sont venus hein ?» Ce sera super. Bon, enfin, passons aux choses sérieuses.
Mais en fait, c'est qui a dit que les femmes devront voter?
Pourquoi il y a des gens qui gagnent plus d'argent que d'autres? Est-ce qu'on pourrait tous payer les mêmes impôts?
Est-ce qu'on pourrait ne plus payer d'impôts?
Est-ce que l'argent, c'est primordial?
Pourquoi ceux qui sont pauvres, ils ne peuvent pas être président de la République ou ministre?
C'est pas la loi qui l'interdit. C'est le fait qu'il faut de l'argent pour faire une campagne. Il faut connaître beaucoup de monde pour pouvoir se présenter. Il ne faut pas être timide. Il faut se sentir capable de parler. Alors nous, avec Michel, pour permettre aux ouvriers d'être candidats, on va proposer un statut de l'élu pour que les élus ouvriers puissent avoir des formations et puis que quand ils sont plus élus, ils puissent retrouver du travail.
Vas-y.
Mais est-ce que, comme c'est souvent les riches qui sont les présidents, ils ont le droit de dire qu'il y aura moins d'impôts pour les riches, puisque c'est souvent eux les présidents et les ministres?
Est-ce qu'un président, si lui-même est riche, est-ce qu'il n'aurait pas tendance à faire des lois qui font que les riches payent moins d'impôts?
Alors,
c'est très hypothétique, mais est-ce que ça serait vrai?
Ben c'est pas du tout hypothétique, c'est-à-dire que c'est la réalité dans la France d'aujourd'hui. Les présidents, les députés, ils sont plutôt issus du haut de la pyramide, ils ne vont pas aller faire des lois qui leur soient défavorables et qui leur fassent payer beaucoup d'impôts. Pas du tout. Ils vont, au contraire, multiplier ce que l'on appelle les niches fiscales, où on peut mettre un peu d'argent, où on ne payera pas d'impôts, pour dire les choses rapidement. Ils vont aussi favoriser des lois qui vont leur permettre de mettre leur argent dans ce que l'on appelle des paradis fiscaux, des endroits où on ne paye pas d'impôts du tout.
Mais s'il n'y aurait pas les impôts, on aurait des routes en terre.
Quand il y a marqué « Mairie Paris » derrière les cahiers, ça veut dire que c'est les impôts qui les ont achetés.
Bravo, c'est une bonne remarque. Les impôts locaux, qui sont collectés par le maire de Paris, ensuite sont redistribués à tous les petits Parisiens, sous forme de cahiers, sous forme d'écoles.
Mais si on met plus d'impôts aux riches, ils vont être pauvres. Et si les pauvres ont moins d'impôts, ils vont devenir riches.
Alors comment sortir de ce dilemme, monsieur le ministre ?
C'est une remarque extrêmement astucieuse et c'est le but de la manœuvre.
Et je vous propose que ce soit le mot de la fin parce qu'il faut qu'on continue notre travail de ministre.
Hein ? Bon les enfants, pour conclure, parce que je vais vous laisser reprendre le cours avec monsieur Estève, est-ce que ça vous dirait, vous, d'avoir des cours de droit, des cours d'éducation politique et d'apprendre ce que c'est que toutes ces choses-là ? Merci beaucoup à vous. Merci pour votre participation.
Au revoir, monsieur et madame le ministre.
Au pays de l'égalité, une classe sociale de souillons qui met tout son dévolu dans les études pour que son statut d'exclu évolue. Mais vu qu'il est peu possible qu'une masse entière soit promue, plus elle monte vers la culture, plus la culture s'échappe au-dessus. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes, et il faut qu'il se transforme et reste privilégié. L'école est le premier lieu où l'égalité fait feu. Mettre au même niveau les gueux et les tenanciers des lieux. Mais les codes restent mystérieux pour les enfants insoucieux qui n'ont pas même parents que ceux de la FCPE. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes. Et il faut qu'il se transforme et reste privilégié.
Au pays de l'égalité.
Monsieur Lepage, monsieur le ministre de la Culture, bonjour.
Bonjour, là-bas, si j'y suis, je suis très heureux de pouvoir participer à votre travail qui a été si salutaire pour arriver à ce qui vient de se passer.
Vous ne nous flattez pas trop, monsieur le ministre, que nous risquerions d'être la cible de critiques, de concussions avec les pouvoirs en place.
Parce que vous ne craignez plus rien.
Pas de complicité, effectivement. Pas de trop de rapprochement, même pas de rapprochement du tout avec les nouveaux ministres citoyens de cet alter gouvernement, je le rappelle, élus le 6 mai 2012. Nous sommes quelques heures après cette nouvelle et cet énorme bouleversement qui a été voulu par les Françaises et les Français. Et donc, nous voici avec le nouveau ministre de la Culture, Franck Lepage, soi-même.
Merci en tout cas de nous recevoir ici au ministère de la Culture.
Je suis désolé de vous recevoir déjà dans un tel chantier. Vous avez vu que nous sommes en train d'enlever les colonnes de Buren. Ça fait de la poussière partout. J'espère d'ailleurs que ça sera fait assez frais. Enfin bon, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez.
Mais oui, alors justement, parlez-nous de vos... on ne va pas aller passer par là. C'est vraiment une ruche. On voit des gens dans tous les sens qui s'activent. Mais c'est le grand chambardement puisque au cours de la campagne, vous aviez même évoqué la possibilité d'une suppression pure et simple du ministère de la Culture. Oui, est-ce que c'est pas un comble ?
Non, c'était la première option qui était retenue, mais c'est normal. Si vous voulez, dans un pays capitaliste, un ministère de la Culture est un ministère de la Culture capitaliste. C'est-à-dire c'est un ministère qui est là pour nous faire croire à des absurdités telles que l'excellence, la rareté, d'accord, et pour faire gober ça aux gens. Des auteurs célèbres ont écrit, j'ai trouvé ça passionnant, que le rôle de la culture dans le capitalisme, le rôle de la culture est de rendre imprononçable l'énoncé du conflit social.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que, depuis 50 ans, l'ancien ministère avait pour fonction de détourner les intellectuels, de détourner les forces progressistes du combat pour l'égalité, de les enlever du Parti communiste, ça a été réalisé dans les années 50-60, et de les entraîner vers un combat, vers une liberté sans objet, une liberté faite de transgression et jamais de subversion. Hein, quand, faire pipi par terre à Avignon, ça ne fait pas trembler le MEDEF, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, la question qui se posait, c'était qu'est-ce qu'on fait de ce ministère ? Et qu'est-ce que serait une culture qui ferait trembler le MEDEF ? C'est une culture anticapitaliste, puisque depuis maintenant les élections, la surprise qu'on n'attendait plus est arrivée. Nous avons, enfin, le peuple de France a défait et la droite libérale et la droite sociale. Hein. Et donc, une culture anticapitaliste, c'est nécessairement autre chose que ce qu'il y avait. Alors, il était logique de supprimer ce ministère. L'autre option que j'ai défendue, c'était au fond de ne pas le supprimer, mais de lui redonner le sens du mot culture. Hein, je vous rappelle que c'était un ministère qui était ratatiné aux arts, aux beaux-arts simplement, d'accord ? Et cette réduction du mot culture au mot art avait parfaitement fonctionné dans les têtes, et elle avait totalement dépolitisé la société. Alors voilà. Et
donc, est-ce que je vous coupe deux secondes, monsieur le ministre ? C'était quand même une fierté franco-française, ce ministère de la culture. Il n'y a pas de choses pareilles aux États-Unis, il n'y en a pas dans beaucoup de pays. Et c'était l'idée de l'exception culturelle, c'était promouvoir toute l'image aussi de la France.
Sa vocation était essentiellement internationale. Sa vocation, précisément, n'était pas franco-française. Il s'agissait de vanter le dynamisme entrepreneurial de la quatrième puissance mondiale. Alors ça, c'est fini. D'accord ? On va arrêter avec ça, maintenant. Et donc, on va mettre en place un ministère de la culture populaire, et non plus un ministère de la culture capitaliste, de l'élite, etc. Voilà, c'est ça l'enjeu qui nous attend. Venez, on va les laisser travailler.
Parce que là, il y a toute une réunion qui a lieu sur le langage.
Oui, justement. Oui, avec absolument, avec tout un tas d'enseignants qui essaient de nettoyer le langage de l'éducation nationale. Vous savez, les sachants et les apprenants. Vous savez qu'ils avaient été jusqu'à supprimer l'échec scolaire récemment. Il n'y avait plus d'échec scolaire, il y avait de la réussite différée. Vous voyez ? Alors voilà, tout ça va être arrêté.
Est-ce qu'on garde le terme de non-comprenant ?
C'est une bonne question.
Alors là, nous arrivons...
On l'a raté, je vois la sous-directrice des langages, mais c'est pas grave, on ira la revoir tout à l'heure.
Oui, qu'il a lancé, cette sous-direction, tout un programme de révision de la langue, si j'ai bien compris.
Plus exactement, de vigilance à un certain nombre d'escroqueries. Il faut appeler de nouveau un chat, c'est le principe même de la direction des langages. Si vous voulez, quand à la télévision, la cellule de communication de l'Élysée imposait aux journalistes de parler de croissance négative au lieu de récession, on avait là un délit... Comment je dirais, de manipulation intentionnelle et trompeuse du public. Je dis bien délit, parce que nous pensons qu'il y avait une intention malhonnête, et que cette intention malhonnête passait par des effets d'oxymore, des effets de langage. Hein. Quand vous appelez un licenciement collectif un plan de sauvegarde de l'emploi, je pense qu'il y a une intention de nuire, une intention malhonnête. Et donc voilà, toute cette manipulation du langage qui a été celle des années 80...
Il y a le dérecrutement aussi.
Le décrutement. Absolument.
Pour licenciement.
Il s'agit effectivement soit d'interdire l'utilisation de ces mots, soit de prévoir, je ne sais pas moi, on verra. Il s'agit pas de pénaliser toute la société. Il s'agit de mettre fin à ça. N'importe quel journaliste doté d'un cerveau et de deux hémisphères aurait dû s'insurger contre le terme de croissance négative. Ça n'était pas le cas. J'ai entendu sur des radios publiques des journalistes parler tranquillement de croissance négative. Quelle est la manipulation ? Ça, les linguistes le savent, c'est que quand vous mettez deux termes qui s'opposent, l'esprit, le cerveau retient le terme positif. Et donc la croissance négative, c'est toujours de la croissance. C'est magnifique. Voilà. Alors, vous multipliez ça par toutes les dérives de langage qui ont été celles du sarkozisme, du social. Alors, socialisme est un terme intéressant. Nous sommes en train de préparer, vous le savez, un décret visant à interdire au Parti socialiste l'utilisation de ce terme, puisque s'il y a bien une chose pour laquelle... Ce qu'on appelle les socialistes ne sont pas favorables, c'est le socialisme. Hein, je vous rappelle que le socialisme, c'est la propriété collective des moyens de production, c'est-à-dire c'est pas la propriété privée des usines et des entreprises. Et donc, ce parti sera sommé dans les mois qui viennent de se rebaptiser ou de se dissoudre, de se rebaptiser pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un parti libéral-social, c'est-à-dire un parti qui ne remet en rien en cause le capitalisme, mais qui saupoudre quelques mesures qui semblent des mesures sociales. Pourquoi pas ? Ce qui était triste, au fond, c'était que des gens de bonne foi votaient pour le Parti Socialiste en pensant voter pour la gauche. Ça, c'était triste. Et ça, il s'agissait d'y mettre fin. À partir du moment où ces gens s'appelleront pour ce qu'ils sont, les choses seront plus claires pour tout le monde. On pourrait effectivement voter pour eux en sachant que c'est un vote de droite. Voilà. Je veux dire, il faut quand même dire une chose, c'est que les États-Unis nous ont sauvés trois fois dans notre histoire, en 1940, en 1939 et en 2011 au Sofitel. Enfin, ça, c'est...
Pour son troisième opéra, le gouvernement, en accord avec la ville de Paris, a fait appel au génie de l'artiste Juan Romano Chocalescu. Mais qui êtes-vous juste, monsieur Romano Chocalescu ?
Mon père était roumain et ma mère était d'origine argentine. C'est pourquoi je suis venu en France pour fuir à la fois les régimes totalitaires de la Roumanie et de l'Argentine. Et puis, financièrement, M. Mitterrand, il a été très gentil puisque j'ai bénéficié à la fois du statut réfugié roumain et statut réfugié argentin.
Tout à fait.
Double statut.
Double statut, tout à fait.
C'est intéressant.
Comme il le dit lui-même, Juan Romano Chocalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur, c'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide.
Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi. Dans une sorte d'irrésistible appel à la couleur, n'est-ce pas? Une sorte d'osmose entre le tube, les poils, la toile et l'alchimie du corps.
Jusqu'au 23 juin, la galerie Abstraction Jubilatoire vous propose les dernières œuvres de Chocalescu, telles que Breakfast sur l'herbe, Marseille-Monaco 1-0, Baigneuse noyée, Toile pour pigeon.
Alors là, on est dans des espèces de croisements, de couloirs et d'escaliers du ministère. Je crois que c'est par ici que vous voulez nous emmener. C'est... Ouais, je vois des collaborateurs. Ah oui, là, c'est vraiment un gros staff qui est en train de passer. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils ont décroché des tableaux dans les couloirs du ministère, c'est ça?
Bon, mais ça, c'est un gag amusant. C'est-à-dire que comme le ministère achetait une flopée d'âneries, qui ne savait pas comment faire, il était obligé de les accrocher dans les bureaux de ses pauvres fonctionnaires. Et donc, quand vous alliez dans l'ancien ministère, c'est épouvantable. Chacun avait des horreurs, des gribouillis noir et blanc derrière, mais ils n'avaient pas le choix, les pauvres. D'accord. Donc voilà, on leur a permis de mettre leur bureau comme ils le souhaitaient. C'était vraiment le minimum. On a remis tous ces trucs-là à la cave. Ouais. Alors, ça n'est pas totalement fini, puisque, comme vous l'avez remarqué, l'essentiel des compétences de l'ancien ministère sont conservées. Hein. La direction du livre et de la lecture, la direction du patrimoine, la direction des musées de France, tout ça était direction magnifique.
Ça, c'est les bureaux qu'on voit devant nous, justement.
Oui, absolument.
Assez feutré, d'ailleurs, oui, c'est assez calme.
Oui, ils ont encore quelques habitudes. Le CNC, la direction du cinéma, tout ça, c'est des politiques magnifiques. En fait, notre intervention sur le domaine des arts va se limiter à très peu de choses. Essentiellement, à retirer le soutien public à ce qu'on appelait l'art contemporain. Là encore, escroquerie patente.
C'est ça, vous avez fait une équation sur le marché de l'art et l'art de marché.
Oui, nous avons remis l'art à la place qui était la sienne. Que des collectionneurs collectionnent, que des galeristes achètent. Ok, il n'y a aucun problème avec ça. Que le marché s'amuse, que François Pinault achète des millions d'euros pour un porte-partition avec trois pinces à linge posés dessus, c'est son problème. C'est très bien, si ça l'amuse, qu'il y aille. Évidemment, dans l'ancien système, il ne pouvait le faire que parce que ce porte-partition avec ses trois pinces à linge était cautionné par un État, c'est-à-dire par de l'argent public. Alors ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'en termes de politique publique, il est hors de question de continuer à mettre un centime sur ces absurdités. Tenue secrète, je rappelle, hein, par décision du Conseil d'État, le prix d'achat par l'État des œuvres dites d'art contemporain, c'est-à-dire des œuvres immatérielles, des œuvres n'ayant aucune existence, hein, tenue secrète. Et les fonds seront évidemment répartis, ça c'est la deuxième grande orientation ministère sur la pratique, puisque ce ministère a l'intention de soutenir massivement les pratiques artistiques, quelles qu'elles soient. Et donc il s'agit de faire culture avec les gens, et non pas de leur balancer comme de l'engrais culturel sur la tête, pour balancer la culture des riches et la culture de la bourgeoisie. Il s'agit de fabriquer avec les gens de la culture, c'est-à-dire de la compréhension politique de la société dans laquelle ils vivent. Et il faut mettre fin à cette idée religieuse que seuls certains individus touchés par une grâce mystérieuse et inexplicable auraient le droit de bénéficier de subventions vertigineuses de la part de l'État.
Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, nous avons du travail.
Élection 2012. Le point sur la situation, Daniel Mermet.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage, une suite de reportages de Guy Van Til avec, vous l'avez compris, les quelques membres du nouveau gouvernement de l'alter-gouvernement. Merci à tous, merci à Monique et Michel Pinson-Charlot, ministre de la Réforme et de l'État, à Franck Lepage, ministre de la Culture, Geneviève Azam, Suzanne Georges, Clarisse Taron, Jean-Marie Arribet, Laurent Mukeli, Philippe Lémarie, Paul Ariès, Jean-Baptiste Hérault. Merci, vous les retrouverez dans Alter-gouvernement, le petit bouquin formidable qui est sorti aux éditions du Muscadier. Tout à fait autre chose, à l'appel de, notamment du Front de Gauche, du NPA, du PCF, un rassemblement en solidarité avec le peuple grec est prévu tout à l'heure à Paris à 18h30, à proximité de l'ambassade grecque et du bureau du FMI, place d'Uruguay, dans le 16e arrondissement de Paris, au métro Kléber. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, et sur le site là-bas.org, là-bas.org, et également sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry, c'est Bertrand Chometon et Franck Adhérer qui ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
On fait quoi ?
Bah ça dépend. C'est quoi le montant du jackpot loto de la Saint-Valentin ?
7 millions d'euros minimum.
7 millions d'euros minimum ?
Ouais.
Bon bah alors, à la place de « tu vas être contente, je t'emmène ce week-end à Ostende »,
ouais,
faudrait que tu dises « je t'emmène passer toute notre vie au soleil ».
Au soleil, à Ostende.
Ah bah non.
Loto, la chance appartient à tout le monde. Ce lundi, jackpot loto de la Saint-Valentin de 7 millions d'euros minimum. À partager au rang 1, voire règlement. FTJ.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Alors ?
Bah alors, je vois une maison.
Non, c'est ma maison basse consommation, équipée au gaz naturel que tu vois. La maison du futur.
Et t'es pas trop en avance sur ton temps ?
Ah bah c'est mon choix. Réduire ma consommation jusqu'à 75% avant tout le monde grâce à ma maison BBC. Et pour le confort, j'ai choisi le top.
Une bouillotte intersidérale.
Non, le gaz naturel, ça t'intersidère, hein ?
Pour en savoir plus, appelez le 0810 124 125. Prix de l'appel selon l'opérateur. Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
16h, quelques secondes sur Inter. Demain à 15h, là-bas si j'y suis, part en Hongrie. Et avec un petit pèlerinage à Boxa. Boxa, ça vous dit quelque chose, mais on ne fera pas que ça quand même au cours de cette série de reportages. Je donc rendez-vous demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Il ne s'est pas déclaré à Issy-les-Moulineaux, mais il a défendu son bilan en inaugurant ce matin les nouveaux bâtiments de la direction de la gendarmerie. Nicolas Sarkozy a justifié sa politique depuis 2002 et donc les réductions d'effectifs dans la fonction publique. Il faut, dit-il, désintoxiquer la France de la dépense. Un accord sur la participation du secteur privé à la restructuration de la dette grecque sera vraisemblablement annoncé mercredi lors de la réunion des ministres des Finances de la zone euro à Bruxelles. Les nouvelles mesures d'austérité ont-elles été adoptées dans la douleur la nuit dernière par le Parlement grec. Voilà donc où on en est aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que ça va laisser des traces dans la population et dans la classe politique grecque. Le porte-parole du gouvernement a d'ailleurs annoncé des législatives anticipées pour avril prochain. En France, les réactions politiques ont été nombreuses aujourd'hui. Eva Joly, la candidate d'Europe Écologie Les Verts, annonce qu'elle va se rendre en Grèce pour exprimer sa solidarité avec la population. La France soutient aujourd'hui la démarche de la Ligue arabe pour résoudre la crise syrienne. Le Quai d'Orsay approuve la nécessité d'une expression politique de l'ONU. Mais dans le même temps, il ne se prononce pas sur la demande d'envoi de casques bleus. La Ligue arabe le réclame, ce à quoi Damas répond aujourd'hui. La Syrie est déterminée à rétablir la sécurité dans le pays. Et elle accuse au passage les dirigeants du Qatar d'être mégalomanes. En attendant sur le terrain, la ville de Homs a à nouveau été bombardée aujourd'hui. Affaire classée, après avoir condamné jeudi le juge Garçon à 11 ans d'interdiction d'exercer dans une affaire d'écoute illégale, la justice espagnole a décidé aujourd'hui de classer une autre affaire où il était mis en cause, une affaire de corruption passive qui portait sur le financement indirect par la banque espagnole Santander de conférences sur le terrorisme données à New York en 2005 et 2006. Un mois après le naufrage du Concordia au large de la Toscane, la présidente du collectif français des victimes demande aujourd'hui la poursuite des recherches autour du navire italien. Deux Français sont toujours portés disparus. L'accident a fait 17 victimes et les corps de 15 personnes n'ont toujours pas été retrouvés. En France, les chirurgiens dentistes ne pourront plus réaliser d'injections antirides. La pratique était tolérée jusqu'à présent, mais la secrétaire d'État à la Santé, Nora Berra, estime aujourd'hui que ce n'est pas de leur compétence. Ils ont fait, dit-elle, une interprétation de la loi. Des inscriptions anti-FN et anti-Sarkozy taguées sur les murs d'une église à Escaudin dans le Nord, le maire communiste envisage aujourd'hui de porter plainte. Il faut arrêter d'insulter les gens comme ça, déclare Jacques Hilor, qu'on soit ou non favorable au président et au Front National. 24 heures après l'annonce de sa mort, les ventes de titres et d'albums de Whitney Houston s'envolent aujourd'hui. Exemple sur la boutique en ligne d'Apple, I Will Always Love You, chanson phare du film Bodyguard, est classée aujourd'hui numéro 1 sur iTunes. Idem sur Amazon. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit la grande Sophie,
je n'insiste pas,
Mustang,
partout, moi, je ne suis qu'à vous,
et Alan Corbel.
Children of the sun, and may rise once again.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La différence.
Il est plongé dans ses CD, Frédéric Lodéon.
Oh,
bonjour.
Oui, bonjour Laetitia.
À tout à l'heure.
Oui, à 17h.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pour commencer, trois aspects du talent de la pianiste chinoise Shu Xiaomei, qui est venue à ce micro il y a quelques années nous raconter ses déboires en Chine, ses problèmes dans les camps de redressement, entre guillemets, et puis qui a trouvé une belle vie en France et qui nous propose régulièrement des interprétations tout à fait passionnantes, Jean-Sébastien Bach notamment, mais pas seulement. Par exemple, voici Franz Schubert, 23e sonate, sonate ultime. Schubert l'a écrite à peu près 2 mois avant sa mort et c'est la dernière grande œuvre du maître. Elle est quelquefois très sombre, très angoissée, mais il y a aussi une lumière, peut-être une lumière d'hiver, je ne sais pas, ça correspond à l'époque qu'on vit, et dans le scherzo Allegro Vivace, avec délicatesse, mais justement c'est ce sentiment qui prime la délicatesse, une chose fort rare de nos jours, et qui n'exclut pas par moments aussi quelques plongées dans les ténèbres de l'angoisse, mais ça c'est Schubert, tout ça change sous la lumière, quelquefois l'ombre qui passe, comme un battement d'aile de papillon, aussi rapidement que ça, on va du sourire le plus généreux, le plus infantile parfois, comme un sourire de gamin, le plus léger, le plus naïf, jusqu'à l'angoisse la plus terrible.